temps que les restaurants soient ouverts.
Ah.
Tu vois, c'est quelqu'un de consciencieux, hein.
Mais elle n'a pas encore fait les soufis.
Oh les, oui, les oui elle va les faire. Encore, je ne sais même plus ce que je lui ai fait faire. La semaine prochaine, Monique ne sera pas là, donc on va refaire une rediffusion. On va transmettre une émission qu'on a faite il y a 4 ans, mais Monique, ça fait longtemps, sur Claude Pellieu. Claude Pellieu en compagnie de Christophe Dauphin. Voilà. C'est bien Pellieu, non?
Ah bah oui.
Hein, c'est quand même quelque chose. J'ai vu dans ton palmarès que tu connaissais Maurice Rachfus.
Oui.
Ouais. Quelques mots quand même?
Oh, quelques mots, oui. Je lui ai fait un petit hommage sur le site du Monde Libertaire. On ne peut pas dire que c'est un hommage, c'est quelques lignes où j'ai simplement eu envie de rappeler qu'il était... très souvent à nos côtés, je me souviens de lui aussi, notamment au Salon du Livre Libertaire de Merlieu, où il n'en ratait pas un. Et puis surtout, moi c'est vrai que j'ai corrigé 3-4 de ses bouquins, j'en ai préfacé un, donc on était vraiment en contact, je dirais pas permanent. Mais surtout mon plus beau souvenir avec Maurice, c'est quand j'ai réussi à le réunir avec René Scherrer, mon ancien prof de philo, et qu'on a écrit à 4, un tout petit livre paru aux éditions du Monde Libertaire sur la criminalisation.
C'est bien, on met ça sur la table, Patrick.
Criminalisation de l'immigration. Et donc c'était assez amusant parce qu'on avait réuni un poète, Maurice et René Scherrer, et on a eu le plaisir de les avoir à Publico. C'était vraiment un souvenir magnifique parce que c'était deux vieux messieurs qui se laissaient la parole.
C'est lui qui a écrit La Première à droite.
La Première à droite.
C'est pas ça, non, c'est pas lui qui est petit, qui est enfant, et dont qui est dans les rues de Paris. Et...
Ah, Maurice.
Oui, oui, non, Maurice. C'est...
Non, ah oui.
C'est
non, ça, je croyais que tu parlais de René.
Non, c'est une très belle histoire, non, celle-là. Tu
l'as en tête. La sienne, elle est
extraordinaire. C'est magnifique, là. Il est dans les rues de Paris, les flics français sont là pour l'arrêter, sa mère lui de s'en aller, il voit un type, le type lui dit La Première à droite, ça doit être ça, ça aurait pu être un piège. Et là, il a pu se... C'est magnifique, ça, on est dans le...
Il a pu s'éloigner avec sa... Alors, il a quand même été raflé au Valdiv avec sa sœur, qui avait 2 ans de plus que lui, qui avait 16 ans. Et en fait, il a eu un pot extraordinaire. Il est tombé sur un milicien de Vichy, moins con que les autres, et qui a dit, non, effectivement, on ne vous garde pas au Valdiv, parce qu'on ne garde pas les enfants entre 14 et 16 ans. Il a réussi à s'échapper avec sa sœur. Mais tous les autres, son frère, et son père et sa mère, n'ont pas échappé. Ils sont partis directement dans les camps de concentration. Mais ce qui est quand même le plus terrible, c'est que c'est un ancien voisin qui les a dénoncés, qui était policier. Et donc, c'est pour ça que Maurice, toute sa vie, s'est acharné à dire que la police, malheureusement, n'avait pas beaucoup changé depuis Vichy.
Il est mort la semaine ou le jour même où il y a une coïncidence avec cet article qu'a fait paraître Michel Onfray. Je ne sais pas si tu l'as lu sur la police. Tu l'as lu cet article?
J'ai apparu un petit peu de mal à lire Michel Onfray.
Non, c'est un article, c'est son blog Front Populaire. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a ce fameux mouvement de bascule qu'on a connu en 38, en 39, en 40, comment des socialistes, des libertaires aussi, sont passés de l'autre côté. Et j'avais fait une émission il y a une dizaine d'années avec Jean-Paul Gaultier, non pas le couturier, mais un historien qui publie chez Sileps. Et à l'époque, il y a 10 ans de ça, il m'avait dit, j'ai dit, mais qui vous voyez comme ça basculer? Il me dit Michel Onfray.
Ah, j'allais te le dire. Tu vois, c'est marrant parce que j'allais te faire la même chute.
Ouais,
donc c'est quand même un peu gonflé de dire ça parce que c'est vrai qu'il a un petit peu basculé.
Ouais, et quand si tu peux récupérer l'article, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, on est dans les textes de 1938-39 quand les socialos, les libertaires aussi, il faut le dire, ont basculé de l'autre côté.
Oui, tout à fait.
Voilà.
On est bien d'accord.
Bon.
On a la même conclusion.
Alors, je te rappelle quand même à l'ordre dont on s'est vu il y a quelques années pour ce très mauvais livre que tu avais fait sur Jean Genet.
Oui.
Oui, bon. Et là, on va parler d'Arthur Rimbaud, qui est encore un plus mauvais livre, mais que tu as fait avant.
Tu sais, ce qui est terrible depuis que j'avais écrit ce Genet, c'est qu'il y en a d'autres qui sont parus, qui sont vraiment supérieurs aux miens.
Oui.
Mais C'est très amusant parce que ce je n'aime, moi, le simple but que j'avais un peu comme pour Arthur Rimbaud, c'était simplement un lecteur passionné d'un auteur qui parle avec son cœur, quoi, on va dire. Hein. Mais j'ai lu des choses tellement intelligentes sur Jean Genet qui sont parues depuis. Et notamment, là, j'ai relu, parce que maintenant j'habite en Grèce, et j'ai relu Athènes, j'ai que ça à faire là-bas, les Pléiades, l'œuvre complète de Jean Genet, avec les notes dans la Pléiade. Et effectivement, quand on voit le niveau des notes dans la Pléiade. Je n'ai quelqu'un de tellement complexe que je crois qu'on n'en fera jamais le tout. Et quelqu'un m'a envoyé un mot qui m'a fait très plaisir sur la petite chronique que je tiens dans Le Monde Libertaire pour me dire que c'était bien, j'étais resté au niveau des pâquerettes avec Jean Genet.
C'est bien.
Et que
c'est bien.
Je trouve ça magnifique. Quoi.
Et alors, je te rassure, je dis toujours, et très souvent quand je reçois des amis au micro, que c'est déjà les plus mauvais écrivains ou les plus mauvais livres, parce que lorsque tu regardes les colonnes Maurice dehors, là, tu lis simplement extraordinaire, génial, étincelant, on n'a jamais vu ça. Alors moi, j'ai décidé de recevoir les gens les plus mauvais.
C'est pour ça qu'on vient.
C'est pour ça qu'on vient. Donc, tu as écrit sur Genet, tu as écrit sur Rimbaud. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a un côté. On va y aller. Moi, ce qu'on va faire dans cette émission, je vais quand même faire parfois l'avocat du diable pour pas qu'on fasse une émission de béni oui-oui. D'accord ?
Bien sûr, ben genre de ça.
Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Il y a quand même un côté homme de lettres chez Genet. Tu peux corriger. Et il y a un côté mauvais, sale gosse, incorruptible chez Rimbaud.
Tu vois, je le dirais d'une manière un peu différente. Je dirais qu'il y a un autodidacte chez Genet, hein, qui finalement s'est arrêté au certificat d'études. Et effectivement, Arthur Rimbaud fait quand même de la partie de la bourgeoisie ardennaise, une certaine bourgeoisie, hein, on va dire, plus lettrée, puisqu'il a arrêté en première. Hein, quand la guerre de 70 a éclaté. Donc, ne serait-ce que ces petites années entre le certificat d'études et la classe de première, ça n'a pas changé depuis l'époque, effectivement, on ne peut pas dire qu'ils aient les mêmes ressources, je dirais.
Et dire aussi, Patrick, que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que très très rapidement, Rimbaud se trouve dans le nec plus ultra des milieux littéraires.
Bah, déjà, ça commence au lycée. Ouais. À Charleville, quand il a eu quand même le prix de, enfin, une espèce de prix d'excellence de rhétorique, ce que n'a jamais eu Jean Genet. C'est un peu difficile de faire des comparaisons parce que j'arrive pas à les situer dans le même, sur le même plan, c'est pas possible, quoi.
Mais tu poses quand même dans ton livre, tu dis à un moment donné, et si Rimbaud avait lu Genet. Tu le dis dans ton livre à un moment donné, une phrase similaire.
Ça, c'est mon plus grand fantasme. Là, j'écris en ce moment sur Klaus Mann et j'aurais adoré que Klaus Mann rencontre Jean Genet, par exemple. Klaus Mann, qui était un grand admirateur d'Arthur Rimbaud, il faut bien le dire. Et oui, mon fantasme, ce serait de faire rencontrer des gens. J'ai toujours rêvé qu'ils aient pu se rencontrer. Par exemple, Klaus Mann a failli rencontrer Jean Genet, puisque c'est
son contemporain, absolument contemporain.
Oui, puis c'est un pote de Cocteau, quand même. Klaus Mann, qui a connu grâce à lui René Crevel.
J'allais te dire ça. Tiens, ôte-moi d'un doute, on s'écarte, mais t'inquiète pas, on va se retrouver. On trouve quand même Klaus Mann, le fils à papa, Thomas Mann, on le trouve dans les assemblées contre la montée du fascisme. On le trouve.
Ah bah, c'est un des premiers.
Un des premiers. Oui. On trouve jamais, il n'y a pas un signe de Genet là-dessus.
Non, mais Genet n'est pas... Genet sera un politique plus tard.
Voilà. Hein?
Et d'une façon toujours un peu un peu différente, c'est pas, je le vois pas vraiment comme un militant, Jean Genet. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est pas. D'ailleurs, Rimbaud non plus n'est pas un militant. D'ailleurs, même Klaus Mann n'est pas un militant. Klaus Mann, c'est un fils de grand bourgeois. Son papa, c'est Thomas Mann. Ils ont tous, d'ailleurs, c'est marrant, tous ont un rapport au père exactement le même, d'ailleurs. Oui. Alors, quand tu regardes les trois personnages, ils ont tous un gros problème avec le père.
Alors, appelle-moi Papa Freud ou Jacques Lacan, comme tu veux. Tu fais partie des mouvements homosexuels, toi ?
J'en ai fait partie.
Oui, tu en as fait partie, et même du phare, c'est ça ?
Oui.
Et ce qui est très marrant, c'est quand on trouve, au début de ton livre, une défense de la mère de Rimbaud.
Oui.
Mais oui. Vraiment une défense qui n'est pas neutre. Hein. Il y a une défense de la mère de Rimbaud.
Oui, parce que je crois que cette femme, bon, on connaît un peu l'histoire de Rimbaud, juste pour la rappeler brièvement, son papa était militaire, quelqu'un de très volage, qui fait quatre gosses à Vitaly Rimbaud, la maman d'Arthur, et qui se barre en permanence, soit en mission, il ne revient que pour les permissions, pour faire des gosses à Vitaly, quoi, en gros. Et en fait, cette femme-là, elle a quand même la charge de quatre enfants. C'est pas des gens pauvres, puisque son mari a quand même de bons revenus, puisqu'il est militaire. Elle a une ferme à Roche, où il y a des ouvriers qui travaillent pour... je parle ça avant de la guerre de 70. Hein. Et donc, elle va quand même réussir à accéder à un certain niveau, je dirais, niveau social, quand elle va retourner à Charleville. D'ailleurs, elle ne travaille pas. Vitaly Rimbaud, elle vit de ses revenus agricoles, quoi, on va dire, hein, de sa maison de campagne. Et voilà que je ne sais pas où on voulait en venir d'ailleurs. Ah oui, pour dire que cette femme, je la défends. C'est pas tellement là-dessus. Il y a des très belles choses qui ont été très mauvaises choses qui ont en général été dites sur elle. Il y a aussi de très belles choses. Essayer de comprendre cette femme qui finalement est une femme assez frustrée, qui a du mal à s'en sortir. Sortir avec ses quatre gosses. Le grand frère d'Arthur Rimbaud, il n'est pas évident. Hein. C'est un pseudo-délinquant bourgeois, je dirais, à l'époque. Il fait que des conneries. Il y a le petit frère Arthur qui est un peu revêche. Elle le comprend mal, ce fils. Quoi. Elle a beaucoup de mal à maintenir une espèce de discipline. Elle aimerait mettre une discipline dans cette famille. Elle n'y arrive pas trop. Puis il y a les deux petites sœurs qui, elles, sont plus
Et
plus
tout ça, ça se passe dans les Ardennes.
Dans les Ardennes, oui, il déménage plusieurs fois. Et cette femme, en fait, c'est toujours belle. Et en fait, pourquoi je la défends pas. J'aurais bien aimé, non pas connaître cette femme, mais c'est un peu présomptueux, mais tout au moins essayer qu'on la comprenne mieux, qu'on la comprenne mieux. D'ailleurs, ce sera quand même la dernière confidente d'Arthur Rimbaud. Il aimera sa maman jusqu'à la fin de sa vie.
Je veux dire, lorsqu'on a une femme et qu'on se trouve avec un diable pareil, la situation ne devait pas être facile. D'autant plus...
Deux diables. Il y a Frédéric, qui est le grand frère.
Il y a Frédéric, le grand frère, et il y a Arthur. On va revenir sur le côté diabolique de notre ami Arthur. Là, tu connais Charleville un peu?
Alors, moi, j'y suis allé, bien sûr, sur les traces...
Terrifiante ville.
C'est très joli, la petite place du Cal est très jolie.
La place du Cal est merveilleuse, est magnifique.
Et quand le musée est pas mal.
Quand tu sors de la gare, tu as un buste. Oui. C'est le buste de Rimbaud. Et tu sais ce que c'est marqué sur le buste?
Non, j'ai pas fait attention.
Explorateur.
Bah oui, magnifique. C'est-à-dire, oui, c'est pas mal.
Explorateur. C'est pas mal. Donc, Patrick, tu as écrit ce livre, Arthur Rimbaud, L'anarchiste inachevé. Et alors là, c'est là que je vais faire l'avocat du diable, je vais tirer ça, voilà. Tu essayes de nous le replacer dans un contexte qui serait de poète, on sait qu'il est, mais aussi le côté politique. Le côté politique, là, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais je vais quand même essayer de tirer tout ça. Dans le côté politique, c'est sous deux angles. Un angle que tout le monde connaît, et un angle qui, moi, ça m'a beaucoup plu que tu reviennes dessus, parce qu'on le dit pas assez. Le côté que tout le monde connaît, c'est la Commune. Mm-hmm. On va y aller. Hein. Est-ce qu'il y a été, est-ce qu'il n'y a pas été, etc. Et le côté de l'époque, les gens ne regardent pas souvent, surtout en regard de la vie de Rimbaud, c'est le côté, c'est que sous Charles X, on a commencé la colonisation. Mm-hmm. Et on ne peut pas voir avoir la vision du monde de Rimbaud sans prendre au moins le phénomène colonial en compte.
Oui, c'est Napoléon III, c'est le Second Empire finissant. Donc, effectivement, le colonialisme est lui aussi florissant. Et je ne sais pas si tu veux parler de la deuxième partie de sa vie, j'imagine, quand il parle dans les colonies.
Bien sûr, il part dans les colonies. Bien sûr, il part dans les colonies.
Oui, mais que faire quand tu as arrêté d'écrire et que tu es désespéré? Enfin, on pourra en parler plus longuement, parce que je pense que déjà son évolution... On ne peut pas prendre le début et la fin comme ça. Bon, aujourd'hui, il est vrai que si j'avais à réécrire ce livre, je ne le réécrirais pas du tout comme ça. Pas du tout sous cette forme-là, en tout cas. Et puis, ça n'a jamais... De toute façon, on n'arrivera jamais à dépasser cette histoire. Est-ce qu'elle est aussi intéressante de Rimbaud pendant la Commune?
Elle serait intéressante si c'était... Si effectivement, il y a un mot qui revient dans ton livre à la fin. Il y a deux mots qui reviennent. C'est le mot « passé ». Il est passé, et le mot « ennui ». Et ça, c'est ma thèse à moi. Hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est passé dans la poésie? Il est passé dans l'homosexualité? Il est passé dans les colonies? Est-ce qu'il s'emmerdait pas terriblement à Charleville? Est-ce qu'il s'emmerdait terriblement, mais aussi
à Paris, dans les
réunions littéraires? Et comme il s'est pas emmerdé, il y a 37 ans, il a tout épuisé, quoi.
Mais j'en suis absolument persuadé. En ce sens aussi, moi je pense que ça n'a jamais été un grand militant, ça c'est clair. Hein. Verlaine non plus, on peut pas dire.
Hein. Non, c'est pas ça, ça va pas.
Alors on nous fait croire que Verlaine aurait fait de la résistance à l'Hôtel de Ville. Mmh. Hein, tu sais, soi-disant, quoi. Et après, il s'est tiré une grosse parano là-dessus, Paul Verlaine. Hein. C'est entre autres sous ce prétexte qu'ils vont partir à Londres. Parce qu'il pense qu'il est complètement... il va partir pratiquement à la suite de Louise Michel, si tu vois ce que je veux dire. Alors qu'il n'a pas fait grand-chose, Paul Verlaine. Il n'était jamais gratte-papier à l'Hôtel de Ville. Bon, voilà.
Ce que rappelle bien ton livre, par contre, et ce que les gens ne savent pas, c'est que lui, il a 17 ans, 18 ans lorsqu'il rencontre Verlaine.
17,
et Verlaine n'est pas un vieillard, hein.
Non.
Verlaine a 26 ans.
Ah, mais j'adore l'histoire, je pense que...
On va le raconter, parce que c'est...
Il y a de quoi se régaler, ça. Ouais. C'est pas...
Il a 26 ans, il a 26 ans, c'est ça, non?
Voilà, c'est tout à fait, oui. Et... Verlaine, c'est quelqu'un, je... Alors, j'ai lu des tas de choses depuis, et il y a des gens qui disent que Verlaine était un mou, même en poésie. Bon, faut pas exagérer, il y a des choses magnifiques chez Verlaine. À partir du moment où il quitte Rimbaud, c'est vrai qu'il tombe dans les bondieuseries. C'est un petit peu chiant à lire, faut le dire, hein, sagesse, etc.
Il est sérieusement imbibé qui nuit sérieusement à son mode cérébral. Tu sais qu'à la fin de sa vie, il rentrait à l'hôpital. Mmh. Il était payé à la ligne, par les éditeurs. Et c'était vraiment une loque, faut avouer, c'est une loque. Il n'est pas très vieux non plus. Hein.
Non, il n'est pas très vieux. Mais lui aussi, il a brûlé la cire de sa bougie, hein, quand même. Et puis, il y a l'alcool qui est omniprésent, à la fin de sa vie, notamment. Mais c'est même lamentable, on l'invite dans des espèces de réunions universitaires, et il est à moitié gâteux, on se fout de sa gueule.
Les étudiants l'appellent pour lui payer un petit verre, pour lui payer un petit verre.
Triste fin.
Mais ce qui est très bien, tu dis qu'il va réécrire son livre, mais il y a plein de choses qu'il faut que tu conserves.
Non, je ne réécrirai pas. Intéressant. Je ne réécrirai pas.
Et en particulier, ce que la lettre, il y a le paradoxe, c'est-à-dire, on va raconter en détail ça, cette histoire de harangue entre Rimbaud et Verlaine, de petits ménages, c'est magnifique, mais c'est tellement là. Ça, c'est le premier. Et quelques années plus tard, parce que tout ça va très vite, hein. Il y a cette lettre magnifique de syntaxe et de lucidité, la dernière de Rimbaud à sa mère, je crois, qui dure, il est à Marseille en train de mourir, c'est une tragédie sur le corps qui est magnifique.
Absolument. L'air tauve sa plume.
On va avoir un petit dilemme tous les deux, et après on plonge dans le livre, mais il faut que je demande à Monique. Merci Monique.
Te souvient-il au fond du paradis de la gare d'Auteuil et des trains de jadis t'amenant chaque jour venu de la chapelle jadis déjà, combien pourtant je me rappelle. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet Auteuil et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Tes forts arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelques tendances aussi franches à nier, mais si vite quittées au premier pas du doute, et puis nous rentrions plus que lent par la route un peu des écoliers chez moi, chez nous plutôt, et déjeuner de rien, fumailler vite et tôt, et dépêcher longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne.
Merci, mademoiselle Monique. Bon, alors, on va avoir un petit dilemme. Est-ce que tu es sûr que ce texte de Paul Verlaine, magnifiquement préféré, c'est sublime, hein, c'est quelque chose adressé à Arthur Rimbaud?
Oui.
Est-ce que tu es sûr, je finis. Est-ce que tu es sûr que c'est pas adressé à Lucien Létinois?
Peut-être, mais je m'en fous parce que j'aurais tellement aimé que ce
d'accord,
soit.
D'accord. Alors selon moi, c'est Lucien Létinois. Hein.
Oui, oui.
C'est Lucien Létinois, c'est ce jeune homme qui l'a amené à la place du colonel Fabien, ancienne place combat où il y avait des combats de chiens. Il allait avec son petit giton là-bas. Mm-hmm. Mais je pense que c'est. Oui, je pense. Hein.
Il faudrait vérifier qui prenait le train venant d'Auteuil. On ne saura jamais.
Hein. Donc si tu peux faire.
Est-ce que tu crois qu'on saura un jour?
Moi, pas, je pense que j'ai lu que c'était Létinois.
Regarde, on lit aussi un peu de tout et n'importe quoi, donc pourquoi pas dire...
C'est sous la plume de Verlaine que j'avais lu ça, je ne sais pas.
Il faudrait vérifier.
Il faudrait vérifier.
En tout cas, moi, je n'ai jamais vu de contradiction là-dessus. Enfin, Et en plus, ce qui m'amuse beaucoup à la fin du texte, c'est quand il lui dit « Mon pauvre amour, ta voix dans le bois de Boulogne », on a l'impression qu'il s'adresse à... que c'est plutôt un micheton qui s'adresserait à sa prostituée. Mais non, comment savoir. C'est vrai que là, je suis allé un peu loin en imaginant que c'était pour lui, mais c'est pas exclu non plus.
C'est vraiment très intéressant de savoir qu'il était homosexuel, Rimbaud.
Oui, parce qu'il y a tellement de gens...
Rimbaud, point
non, Rimbaud, on s'en fout, mais en fait, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce qu'aujourd'hui, on dit tellement de choses... absolument pas vérifié sur la fin de sa vie, comme quoi il aurait vécu avec une Africaine. En fait, pas du tout, c'était sa servante, et on sait très bien que les servantes... quand je parle de servantes, je pense aussi aux servantes de Baudelaire, qui aurait été sa maîtresse. Enfin bon, tout ça, c'est... Il y a eu tellement de conneries dites sur Arthur Rimbaud, je trouve
il
ça...
Lui laisse quand même son arme, il lui laisse quand même ce qu'il a.
C'est au fils.
C'est pour ça que ta thèse.
Elle tient un peu de nous quand même. Mais c'est pas ça, on s'en fout. Je veux dire qu'il est couché avec cette fille, cette Africaine. Ce qui m'énerve, c'est qu'on en fasse à la fin de sa vie un hétéro, rédempté. Oui. Et ça m'agace.
N'empêche, mon cher Patrick, lorsque tu parles par exemple des petites amoureuses. Et tu dis, est-ce qu'un amoureux des femmes peut parler comme ça des femmes? C'est à peu près ce que tu dis. Mmh. Donc ça prouverait qu'il n'aimait pas les femmes, mais qu'il aimerait plus les hommes. C'est un texte d'humeur, mes petites amoureuses. Un texte d'humeur.
Et tu vois, il y en a une qui l'a agacé, qui l'a refusé, tu penses, toi?
Je pense que oui. Et je pense aussi, pour revenir là, que qu'il soit homosexuel ou pas, mais pour lui, c'est le sale gosse.
Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il mord les fesses de la petite brutale.
C'est ça.
Non, mais attends, homosexuel, ça ne veut pas dire être indifférent aux femmes.
Voilà.
Mais d'un autre côté, je n'ai jamais trouvé ça très important de sa part, mais ça a été une telle bataille pour le faire reconnaître. Quand tu vois Paul Claudel, qui a quand même ôté de la première édition des poèmes, d'Arthur Rimbaud, il a ôté le sonnet du trou du cul parce que ça dérangeait monsieur, qui était un cato. Donc on s'est tellement battu aussi pour qu'on laisse tranquille Rimbaud. Il y a des poèmes érotiques de Verlaine et de Rimbaud. Ils en ont écrit ensemble, mais Verlaine a écrit tout seul. À consonance totalement homosexuelle, et ça, faut pas enlever ça, je veux dire, c'est une réalité.
C'est loin de moi de l'idée, ce qu'ils ont été dans Plumard, c'est sûr et certain.
Oui.
Mais je veux dire que lui, maintenant, moi, ce que je pense, je pense qu'il a traversé ça, comme il a traversé la commune, comme il a traversé la poésie, etc. Quand tout à l'heure, on disait qu'il est pas du tout. Il arrive à Paris, il tombe sur le nec plus ultra. C'est-à-dire, il rencontre Charles Cros, il rencontre les vilains bonhommes, les vilains bons hommes. Il est en plein, mais j'ai l'impression qu'il est là, il passe.
Oui, mais il est toujours passé quand tu regardes avant.
avant qu'il vienne à Paris. Il écrit de très beaux poèmes. Il y a des femmes qui apparaissent, notamment l'aubergiste quand il fait ses balades.
La Maline.
Qui apparaissent. Mais tu regarderas que, déjà dans ses amitiés, on n'a jamais relevé une seule femme. Que je sache, encore aujourd'hui. De toute façon, c'est très difficile d'en parler parce que qu'est-ce qui nous reste ? Les poèmes, on ne devrait pas les avoir, déjà, tu sais bien ça. C'est grâce à la vigilance de Verlaine qu'avait gardé un petit exemplaire et des exemplaires qu'on a retrouvés à Bruxelles, mais autrement, on n'aurait plus rien du tout. Et en plus, je ne pense pas que c'était un garçon expansif qui a accordé une grande importance à sa vie quotidienne. Enfin, il ne tenait pas de journal, que je sache, et puis je ne pense pas... Comme il ne pensait pas du tout à la postérité, ce qui est plus intéressant, c'est vers la fin de sa vie. Alors là, il n'arrête pas de dire qu'il veut se marier, il dit à sa mère, bon, d'accord. La mère est quand même très straight, et il faut que ça rentre dans une case, je veux dire, ça a toujours été. Homosexuel ou pas, il faut que son garçon se marie. Mm-hmm. Pourquoi faire ? Pour faire des gosses et perpétuer, j'allais dire la race. Enfin, en tout cas,
l'espèce.
Perpétuer l'espèce, voilà. Je préfère dire ça. Merci. L'espèce. Et bon, c'est pas nouveau. Je veux dire, pourquoi ça aurait échappé ? Moi, ces lettres-là, je te ferai remarquer comme ça au passage, c'est toujours pour réclamer de la thune à sa mère. Donc, quand on est un peu dépendant, parce que ce pauvre grand garçon de Rimbaud, il a pas de chance. En Afrique, il a vraiment pas de chance.
Il
choisit toujours les mauvais chevaux, donc il faut bien que maman, elle allonge les sous, et elle n'arrête pas d'envoyer des sous, maman.
Tu parles de Paul Claudel, parenthèse aussi, c'est pas quelqu'un de très fréquentable, Paul Claudel. Faut pas oublier qu'il a dit poète magistral quand il est très jeune. Je sais pas si tu as lu Tête d'or. Tête d'or, c'est un ode au sang, au foutre, à tout ce que tu voudras, qui va recorriger par la suite. Et il aura qu'une seule idée, c'est de tirer Rimbaud vers la bondieuserie.
Tout à fait. Wow. Mais alors ça, bon courage, parce qu'il n'y a pas réussi. Et je crois que c'est impossible. De toute façon, c'est impossible. Mais tu vois, cette histoire de...
Il n'est pas le seul non plus, parce qu'il y a Maurras, il doit y avoir Maurras, il doit y avoir des gens comme ça.
Oui, bien sûr.
Francis James aussi. Qui essaye de le tirer.
Oui, qui essaye de le tirer. Et tu vois, moi, je n'ai pas essayé de le tirer de l'autre côté, je m'en fous. Mais ce qui est... Et quand tu parlais là, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, la scène du hareng, par exemple.
Magnifique.
Il y a aussi une autodérision du couple homosexuel... avec les rôles, le rôle de la femme, le rôle de l'homme. En passant, je relisais, je suis retombé sur un poème qu'il envoie à Verlaine, avant de la rupture, ou après la rupture d'ailleurs, et qui est assez aussi ambigu sur le sens du couple. Enfin, je pense, de toute façon, je vois pas Arthur Rimbaud en couple.
Non, moi non plus.
D'accord. Verlaine, c'est quand même quelqu'un de très faible et de très...
Mais lui qui a toujours été en couple.
Qui a toujours été en couple, puis à mon avis, je pense... J'en sais rien. Alors, quand je dis ça, en fait, je m'interroge.
Il est quand même père de famille. Verlaine, il est tout ça.
Père de famille, je te rappelle quand même un moment, j'en parle, il a failli tuer sa fille contre un mur. Qu'il était pété à l'absinthe. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler un père de famille. Peut-être justement un père de famille.
Il a frappé sa mère, Verlaine a frappé sa mère, il a frappé sa femme, cogné ses gosses.
Donc voilà.
Il a tiré sur Rimbaud. Il tire.
Non, mais écoute, il tire sur Rimbaud. Ils étaient bourrés.
Bourrés.
D'accord. Oui, tu comprends ce que je veux dire ? C'est difficile, il n'y a pas d'attention pour moi.
Il y a un côté dérisoire. Comparé à la chute, on va en parler, la chute de Rimbaud, à la fin, où c'est la tragédie à l'état pur. Mais pour revenir à cette histoire-là, il va monter à Paris, avant la semaine sanglante, il monte à Paris, là. Alors, est-ce qu'il y a des floraisons ? On va parler bien, Patrick. Est-ce qu'il y a des floraisons sexuelles et politiques à la fameuse caserne avec la garde nationale ?
Écoute,
tu peux raconter rapidement par rapport. C'est le cœur supplicié, c'est ça hein ?
Oui, c'est ça, le cœur supplicié. D'ailleurs, qui a eu plusieurs titres aussi. Je me suis basé sur une analyse d'un copain à moi, Pierre Slama, que j'ai trouvé qui va assez loin, je dirais, dans la dissection du texte. Tu sais, c'est un peu comme dans un procès. On a des preuves à charge et des preuves... bon. De toute façon, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il aurait assisté à une scène violente pendant la Commune de Paris.
Alors, il aurait assisté ou c'est lui ?
Alors, est-ce qu'il était acteur ou spectateur ?
ça on n'en saura jamais rien. Cela dit, le poème est quand même assez violent et on sent une certaine violence subie dans le poème. Voilà. Hein, on va parler sérieusement, parlons sérieusement. Cela dit, quand tu assistes à un viol, tu peux te sentir autant violé que la personne violée, tu vois. Bon. Donc, comment démêler tout ça? Alors, ça serait passé parce qu'il y a eu tu sais, c'est pour ça que j'ai plus envie de rentrer dans ce genre de polémique.
C'est la caserne, c'est la caserne de...
Bah, la caserne de Reuilly.
De Reuilly, c'est juste à côté, là.
Qui recrutait, voilà, les jeunes gens, voilà. D'ailleurs.
Et ce que je trouve intéressant dans ton texte, c'est pas que tu as bien chargé par rapport à la commune. Hein, tu as bien chargé par rapport à la commune, bien dans les détails, etc. On tombe sur un concept extrêmement contemporain qui est très dangereux. C'est le concept du peuple. Car on dit, tu dis, qui dit là, la garde nationale, donc la garde populaire, est un véritable bordel.
C'est un boxon.
C'est tout et n'importe quoi. Mais et donc là, tu as des leaders populistes qui se réclament du peuple, ils sont faits pour ça, là. Tu t'aperçois que c'est un mot très dangereux.
Bien sûr. Bien sûr. Mais je crois que, de toute façon, moi, je pense, hein, personnellement, que Rimbaud est un individualiste, ça c'est sûr. Je ne pense pas qu'il était fait pour. Pour une action, je dirais, commune et partagée, je pense pas que ce soit... C'est dans ce sens-là que je pense pas qu'il était très engagé. Je suis même pas sûr... Bon, s'il est passé à Reuilly, il y est peut-être passé comme ça, par hasard, etc. Bon, il tombe sur cette scène. Est-ce qu'il avait la volonté de s'engager dans la commune? Je pense pas, tu vois. Ça m'étonne. Enfin, j'en en sais rien. En plus, on sait même pas s'il était là. Donc, tu vois, cela dit, ça fait quand même sacrément vécu, ce poème. Hein. D'accord? On a vraiment un sentiment de vécu.
Bon. Mais on sait qu'il était quand même à Paris.
Alors,
dans ces
il était à Paris, ça c'est sûr. Hein? Mais tu as pu voir là, tout le développement que je fais autour de ça, ce ne sont que des... Comment dire, un argumentaire et des contre-argumentaires. On n'a pas... On ne saura jamais de toute façon. Ce qui est terrible sur le cas Arthur Rimbaud, hein, le cas Arthur Rimbaud, c'est que sa sœur a tout détruit exprès. Donc ça peut faire partie des choses qui ne plaisaient pas à la frangine.
Hein qui elle-même est mariée avec Paterne Berrichon, oui, qui va réécrire, qui va écrire. C'est pas la sœur de Nietzsche, mais il y a quelque chose derrière. Hein.
Voilà. Donc c'est quand même de la censure. Donc il y a très certainement beaucoup de choses qui sont parties. Et alors ce qu'il faut savoir aussi et qu'on ignore beaucoup, c'est que la maison de Roche où il y avait beaucoup de souvenirs, et voire tous les souvenirs d'Arthur Rimbaud, je dirais tous ces brouillons, hein, a été bombardé pendant la guerre de 14. Donc il devait rester certaines choses qui ont disparu, parce que la maison a disparu sous les bombes. Bon, alors quand même pas de chance pour ça. Donc tout ce qu'avait sauvegardé à peu près Isabelle Rimbaud, sa sœur, qu'elle n'avait pas brûlé dans la cheminée du couple Paterne Berrichon et Isabelle Rimbaud, se trouvait à Roche, et Roche a été détruite par les bombes allemandes, donc on ne saura jamais. Mais moi je pense que tu sais, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on retrouve des choses, mais que je... vu l'état, justement, l'état de fait de ce qui s'est passé, de ce qu'il est resté de sa vie, je crois qu'on ne saura jamais. Donc on ne peut que supputer, quoi.
Ça t'inspire la chasse spirituelle? Ce faux Rimbaud qui est apparu dans les années...
Oui.
Et dans lequel il est possible que... Je ne veux pas dire de bêtises, là, c'est entre guillemets, que notre camarade Forisson, tu vois, qui est Forisson,
oh, très bien.
À laquelle Forisson aurait participé. C'est-à-dire, c'est un faux Rimbaud qui apparaît. Un faux Rimbaud qui apparaît.
Hein. Et il y en a tous les ans. Il y a aussi la fausse photo là, qui est parue il y a 3 ans. Alors qu'on a des vraies photos. Alors ça, par contre, elles sont vraies. Elles sont au musée Rimbaud à Charleville. Pareil, toute la fantasmagorie sur l'Afrique, sur Harare. Il a envoyé des photos à sa famille qui sont restées, ça par contre. On les a, elles sont au musée. Mais alors il en apparaît à peu près tous les ans. C'est très facile, parce qu'il est décharné. Quand il vit en Afrique, il n'a plus du tout son apparence parisienne.
Ils ont tous des chapeaux avec des trucs, comment, des casques coloniaux, etc. Et tout, c'est très facile de ressortir une photo et de dire ça c'est Arthur Rimbaud, quoi. Mais moi, je tiens beaucoup de choses dans ce livre, et ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est une source qui m'a été énormément profitable. Il s'avère que ma mère, qui était vendeuse automobile, bossait dans une concession Peugeot, dont le patron était Monsieur Bardet.
Monsieur Bardet, oui.
Ouais. Le petit-fils, hein, évidemment, Bardet. Et il avait énormément de choses. Il est décédé aujourd'hui. Et il s'est avéré qu'après, ce monsieur Bardet a une liaison avec la meilleure amie de ma mère. Et d'ailleurs, j'ai des copies de certaines choses que j'ai redonnées au musée d'Arthur Rimbaud, d'ailleurs. Ce ne sont que des copies, mais de lettres. Donc, puisque c'était les établissements Bardet.
Oui.
Et là, ça m'a un petit peu ouvert des horizons sur le côté africain. À savoir que très longtemps, moi, j'ai eu des pièces qui avaient appartenu à Arthur Rimbaud. Je les ai séparées. Les dernières, je ne me suis pas fait voler. Je les ai données au musée. Parce que je trouve que c'est indécent de porter quelque chose qui aurait appartenu à Rimbaud. En fait, c'est ce que la famille Bardet avait récupéré dans ses poches à Marseille. Et donc la famille Bardet les a gardés. Ce qui est le plus horrible de l'histoire, c'est que toutes ces choses, ce monsieur Bardet dont je parle est décédé, il avait 8, 12, 11 enfants, je crois. Oui, quand même.
Le petit-fils.
Le petit-fils, oui.
D'accord.
Et le petit-fils, et aucun de ses enfants n'était intéressé par Arthur Rimbaud. Alors ma mère, pendant des années, lui a dit moi j'ai un fils qu'il adore, qui a écrit un bouquin, etc. D'ailleurs, je crois qu'il l'avait lu, le livre. Et je me suis dit, un jour, c'est génial, je vais pouvoir apporter une pierre au monument, si on peut dire monument, Arthur Rimbaud. Et ben non, ça m'est passé sous le nez, parce qu'il est clair que moi, j'aurais tout refilé au musée de Charleville, ça c'est sûr. Mais il y a encore des choses qui traînent, c'est ce que je veux dire. Donc il y a encore des objets qui traînent, je trouve ça d'ailleurs assez lamentable.
Comme je voudrais qu'on progresse pour arriver à certains points,
oui.
tu vas me corriger, d'accord ? On va faire un résumé. Il naît dans les Ardennes, extrêmement il est brillant,
oui.
Très brillant, bon élève,
oui.
Bon élève. Il commence à écrire, il rentre en contact avec le nec plus ultra de la littérature, c'est-à-dire Verlaine, Charles Cros. Il est accueilli à Paris. Là, comme il est extrêmement turbulent, même les gens qui l'accueillent, il fout un bordel considérable, plus personne ne peut le supporter.
Il est insupportable.
Insupportable. Mais je crois qu'il y a cette attitude, il y a Charles Cros qui lui loue une chambre, et il fout un bordel terrible.
Rue Campagne Première, il se fout à poil et il jette toutes ses fringues.
C'est ça. Voilà.
Une autre aussi qui est certainement historique, puisqu'on la tient d'un du club des bons hommes. Il aurait pissé sur une table parce qu'il n'était pas content d'un poème d'un des vilains bonshommes. Et il serait levé, il serait monté sur la table, il aurait pissé, ce qui est à peu près sûr. Ce ne serait pas étonnant du personnage. Oui, c'est vraiment un
affreux
jojo. Mais... Personne ne supporte, personne...
Dans les vilains bonshommes, il doit y avoir Mallarmé qui se profile,
ouais.
Dont Mallarmé dit une très belle, une magnifique phrase, il dit à un moment donné, il avait ce je-ne-sais-quoi de fille du peuple, d'arrogant de fille du peuple.
Oui.
C'est magnifique, ça.
Oui.
Là, au niveau de la personnalité, c'est admirable. Donc, il va faire fureur, parce que ses textes sont magnifiques. Hein. Ses textes, il fait fureur, là, et il va se mettre en ménage. Ménage comme ça, avec Paul Verlaine.
Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, parce que en fait, il veut prendre la part.
Il veut prendre la place de la femme légitime, Mathilde, c'est ça, oui.
De Mathilde,
voilà.
Tout à fait. La petite souris, comme il l'appelle, Dame Souris. Et Verlaine, qui est très fait, puis je pense qu'il est bien accroché à Rimbaud, bien amoureux, va lui passer plusieurs tocades, essaye de le caser, tant bien que mal. C'est plein de rebondissements, t'as vu dans le bouquin, je parle de tous les rebondissements, c'est amusant. C'est amusant parce que c'est Rimbaud, et parce qu'il était brillant, justement. Mais oui, je crois qu'il est totalement insupportable. Preuve en est, c'est qu'on est obligé de l'écarter de Paris, quand même, hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, pour en revenir à la Commune, c'est que quand ils partent à Londres, c'est pas n'importe où, c'est dans le milieu des anciens communards.
C'est ça.
Et là-dessus, on a des traces. Donc,
ce sera pareil à Bruxelles plus tard, on retrouve les anciens communards.
Exactement, les anciens communards. Donc, toujours le lien. Je veux dire qu'il y a un lien, certainement. Et surtout, tous les magnifiques poèmes qu'il a écrits après l'écrasement de la Commune,
qu'il a incontestablement, quand on creuse, puisqu'il y a toujours, bien sûr, des différences d'interprétation, mais quand on creuse vraiment ces fameux poèmes, dont Les yeux de Marie-Jeanne. Les mains de Marie-Jeanne ou d'autres de la même trempe. Bon, incontestablement, on sent qu'il y a, une mise en perspective sociale.
Ça, c'est dans les poèmes.
Donc,
et c'est plus dur. Là, c'est là que dans ton livre, tu vas essayer de tirer ta démonstration. Oui. Parce que moi, je l'ai lu ton livre. J'ai bien lu, hein, je te promets. Et je me dis, mais comment il va faire pour en arriver aux illuminations? Et trouver des traces de communes dans les illuminations.
Non, il n'y en a pas.
Tu prends une phrase, je te mets au défi, là. Est-ce que tu veux massacrer les révoltes logiques? Puis il le dit, nous massacrerons les révoltes logiques. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non. Alors.
Patrick, prends tes responsabilités.
Oui, oui.
Tu n'es pas à Athènes ici, je te signale.
C'est certain. Non, je pense que voilà, il y a un événement qui se passe, voilà, pour en venir plus. Et puis il y a des années qui se passent quand même entre les illuminations et le poème du voyant. Je pense qu'il a changé Rimbaud. Hein. Donc déjà, c'est des périodes totalement différentes, avec une approche différente. Donc si tu veux. Dans les illuminations, non, il n'y a rien à justifier. De toute façon, c'est un texte qui est extrêmement difficile, le voyant. Extrêmement difficile. Il s'en prend... Et je pense que Rimbaud doit le faire un petit peu exprès de tout mélanger, entre les Gaulois, la race, la religion, je parle bien de la race, parce qu'il en parle, lui. Je suis un Gaulois, avec des clichés de l'époque, quand même, aussi. Hein, les Gaulois qui se graissent les cheveux, alors que c'était plutôt les Athéniennes, justement, qui se graissaient les cheveux. Enfin bref, il y a tout un mélange qui est esthétique, là, qui est esthétique. Mmh. Il veut prouver quelque chose. Oui, tu l'as compris, toi, le sens du discours du voyant.
Alors, la lettre du voyant...
La lettre.
Oui, ça, je l'ai compris.
Oui,
ça, je l'ai compris. Mais par contre, où ça bascule, c'est que... Je crois qu'on va être d'accord, les illuminations restent parfaitement énigmatique.
Ah, totalement. Alors là, qui pourra me l'expliquer?
Voilà. C'est ça le génie de Rimbaud. C'est énigmatique. Oui, il demeure. Oui. On peut écrire n'importe quoi, des tonnes et des tonnes. Ce sera énigmatique.
Mais tu vois, tu me parlais de Jean Genet. Jean Genet fait la même chose, hein, en fin de compte. Pour moi, c'est les grands génies qui sont capables de faire ça. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que Genet et Rimbaud. Je pourrais en citer des tas d'autres. Mais je crois que c'est ça le génie. Jean Genet, c'est pareil pour le comprendre.
Selon toi, il atteint le génie dans ses poèmes, dans La saison en enfer ou dans Les illuminations?
Pour moi, c'est les poèmes parce que.
C'est les poèmes.
Mais
oui.
Moi, c'est les poèmes.
D'accord.
Ah, vraiment, je suis attaché.
D'accord.
Tu vois, le poème qu'on vient d'écouter, c'est un poème de Verlaine, mais enfin, ouais. Ils sont à peu près de la même trempe. Certains de cette époque. On a réussi maintenant à les analyser pas mal, tu sais, les voyelles, etc. Bon, d'accord. On en a plus ou moins fait le tour, mais c'est pas vrai, parce qu'on n'en fera jamais le tour. Même les voyelles, on n'en fera jamais le tour.
C'est l'énigme à l'état pur. Ce qu'on va faire, je vais te mettre au défi.
Encore?
Oui, j'ai fait que ça sur Radio Liberté à 89.4. Tu vas nous raconter l'histoire du hareng, ce qui est, oui. À quel point c'est que non, mais c'est pourquoi ça m'intéresse, c'est tellement cucu.
Oui, c'est cucu.
On prend deux grands poèmes, il y en a quelques-uns, il y a Lautréamont, il y a Baudelaire, du 19e, mais il y a rien d'un truc plus ménager que cette histoire-là. Avant, je t'offre une.
Tu cites pas Mallarmé, pourquoi? Avec Verlaine et Baudelaire.
Oui, bien sûr. Oui, c'est tellement, bien sûr. C'est tellement là, oui. Mais là c'est tellement quelque chose de ménager. C'est un truc de concierge.
Ah oui, complètement. Oui.
Un truc chez les concierges, par rapport.
Moi, je pense qu'Apollinaire a dû faire la même chose avec Picasso, tu sais. Rappelle-toi, c'était quand même très ménager, leur discussion.
Ah, mais oui, c'était, oui, hein, bien sûr.
D'accord, donc je veux dire que c'est pas.
Oui, mais là, je pense qu'on a atteint le là.
Oui,
Monique, si tu veux bien.
Oui, c'est vrai.
Noir de loup. Grêlés, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus, crispés à leurs fémurs, le cesse-cipute plaqué de hargnosité vague, comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils sont greffés dans des amours épileptiques, leurs fantasques saturent aux grands squelettes noirs de leurs chaises, leurs pieds aux barreaux rachidiques s'entremêlent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre, où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. et les sièges leur ont des bontés. Culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins. L'âme des vieux soleils s'allumant mailletée dans ses tresses d'épis où fermentaient les crânes. Et les assis, genoux aux dents, vers pianistes, les dix doigts sous leurs sièges aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes. Et leurs cabosses vont dans des roulis d'amour. Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage, ils surgissent grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates au rage. Tous leurs pantalons bouffent à leurs reins pour souffler. Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves au mur sombre, plaquant et plaquant leurs pieds tors, et leurs boutons d'habit sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Puis, ils ont une main visible qui tue au retour. Leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue, et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Rassis les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à cela qui les ont fait lever, et de l'aurore au soir des grappes d'amygdale sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours, de chaises en lisière par lesquelles de fiers bureaux seront bandés. Des fleurs ardentes crachant des pollens en virgule, les percent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls, le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épis.
Cette histoire de harangue,
c'est ce qui m'a presque vient d'entendre. Tu fais parler de harangue.
Oui, mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Comme...
Bon, allez, on va y aller. C'est une très jolie histoire. Ils sont installés dans une petite piole sordide. Ils ont l'habitude, de toute façon, comme
ils sont où, en Angleterre, c'est ça?
En Angleterre, oui. D'accord. Ils sont à Londres, dans un quartier excentré de Londres, pour immigrer d'ailleurs. Et ils se font jeter d'un peu partout. Ça change pas. Ils ont l'habitude. Hein. On recommence ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire tout le milieu intellectuel, poète et ancien communard, etc., se dit, bon, ils sont infernaux tous les deux. C'est impossible de les tenir, de les garder sérieux. Donc, ils vivent plutôt reclus. Alors, ils picolent, bien sûr, et puis ils écrivent des poèmes, beaucoup. Mmh. Alors là, par contre, c'est une période qui est très, très prolixe pour les deux. Aussi bien pour Verlaine que pour Rimbaud. Et puis, je ne sais pas de qui vient le fantasme, si c'est de l'un ou de l'autre, de se mettre en couple. Je pense qu'ils s'aiment beaucoup, effectivement, mais ils s'aiment et c'est le couple infernal. Là, d'ailleurs, c'est un des titres des poèmes de voilà, le couple infernal. Et il y a un petit peu une distribution des rôles. Bon, c'est-à-dire comme le jeune beau campagnard, on va dire beau parce que Verlaine a flashé sur lui. Hein, c'est un monsieur d'une certaine stature quand même, enfin il devient un monsieur là, Rimbaud, on peut parler d'un monsieur à cette époque-là, enfin un jeune monsieur, alors que Verlaine est plutôt petit,
assez costaud, yeux bleus,
voilà, avec des grosses pognes, parce qu'il en parle beaucoup, les mains de Rimbaud, Verlaine en parle beaucoup visiblement, parce qu'il trouvait qu'il avait des mains de paysan, ça devait être, faire partie du fantasme, je sais pas. Donc le jeune reste à la maison et c'est Verlaine qui va faire les courses tous les jours. Et puis un jour, il y a Rimbaud qui le voit revenir et il regarde de la lucarne de la petite piole où ils sont. Et puis il dit, quand Verlaine rentre, il lui dit, mais mon pauvre garçon, t'as vraiment l'air d'un con là, à nous ramener deux harengs pourris. Il a acheté du... C'est méchant parce que Verlaine est allé sur le port acheter du hareng frais pour son gentil Rimbaud, son gentil Arthur. Et l'autre le se fout de sa gueule lamentablement. Lui dit... Et ça finit très... De façon complètement baroque, à savoir que Rimbaud lui prend les harengs et lui fout la gueule en lui disant j'en veux pas de ta merde, tu peux pas me ramener autre chose. Et surtout, non, moi ce que je trouve un peu dans cette anecdote au-delà de ça, alors effectivement ça fait une scène terrible et à ce moment-là Verlaine se barre carrément quoi. Verlaine dit tu me fais chier petit con, en gros. Hein. Tiens, garde la gueule. Il lui renvoie sûrement les harengs à la gueule aussi, parce qu'ils étaient batailleurs tous les deux. Mais moi, ce qui me trouble un peu dans tout ça, c'est qu'en fin de compte,
ils peuvent jamais se séparer, quoi. En fin de compte, il n'y a que la tragédie qui va les séparer.
C'est une histoire d'amour pour toi.
C'est vrai. Ah bah oui, c'est vraiment une histoire d'amour, hein, de toute façon. Alors là, c'est pas moi qui parle. Ni j'invente.
Oui, lui dit, il y a très beau, très tendre.
Ah,
il y a
une lettre. Les lettres.
Alors, bien sûr, il y a une lettre de Rimbaud, mais on pourrait penser qu'il est le sale gosse jusqu'au bout. Mais à un moment donné, il y a une parole. Je crois qu'il lui dit, tiens, tu viendras. Il est très inquiet. Dis-moi, tu viendras. Il est très inquiet que l'autre ne vienne pas.
Oui, parce que la séparation, il y a séparation. Et alors, surtout, ce qu'on sait un peu moins, j'ai un peu moins creusé ça, parce que bon, est-ce que c'est vraiment de l'anecdote aussi. Il y a d'autres garçons autour. Hein. Donc, tu me dis, est-ce que Rimbaud est homosexuel? Quand tu me diras Verlaine, je te dis, non, il était bisexuel. Rimbaud. Verlaine est devenu, en tout cas, à cette période, assez homosexuel dans la mesure où, quand Rimbaud se barre, il le remplace vite hein, par un autre jeune poète. Entre autres,
à qui cette époque-là. Verlaine le remplace.
Et Rimbaud aussi.
Et Rimbaud aussi, attention.
Bah, bien sûr, parce que Rimbaud, c'est avec Crowe. Bah, oui.
Il part avec Germain Nouveau.
Et Germain Nouveau, pardon, d'accord. Excuse-moi. Avec Germain Nouveau. Donc, tu vois, c'est un petit peu, ça me fait un petit peu penser à d'autres choses, enfin d'autres auteurs de la même catégorie, je dirais. Et après cette séparation, c'est je t'aime plus, quoi. Je t'aime moi non plus, quoi, on va dire. Et il y a tout un échange de lettres. Je crois que même Rimbaud fait la démarche de revenir, et puis au dernier moment, il repart en bateau. Enfin, c'est, je t'aime, je te fuis, etc. Quoi. Jusqu'à Bruxelles.
Oui, alors. D'accord. Mais tout ça va très vite, parce que tout ça va très vite. Oui, hein, ça se passe en quelques mois. Et de ce côté sordide de la vie, moi je trouve ça assez sordide, le jeune Arthur, qui n'est pas vieux non plus,
moi, va en sortir, tu sais pourquoi il lui foulait à rang la gueule, à mon avis. C'est à moi de te poser une question.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas une menée de fleurs.
Ah, tu crois? Ah, c'est magnifique, c'est magnifique.
Je pense.
C'est magnifique. Mais il va en tirer ce texte, alors, qui est aussi un texte énigmatique, qui est La saison en enfer. Parce qu'il y a plein de pages dans La saison en enfer qui demeurent des énigmes. Faut bien le dire. Hein.
Oui, tout à fait. Moi, je ne me suis pas attaqué, hein, personnellement.
Oui, c'est des énigmes.
Totalement.
Bien sûr.
Et il faudra avoir le temps et reprendre un peu ce texte qui est merveilleux. Mais en fait, ça a été tellement expliqué de façon académique. Tu sais, moi, j'ai lu Rimbaud très jeune. Très, très jeune. Je l'ai relu. Plus je le relis, moins je le comprends. Et c'est ça qui est merveilleux.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que je l'aime toujours autant. Et j'essaye plus de comprendre.
D'accord.
Tu vois? Non. Je préfère me laisser bercer par la musique. Bon. Mais on doit beaucoup à Léo Ferré. Hein.
On lui doit beaucoup.
Merci d'avoir choisi ça.
Parce qu'il a fait, c'est magnifique.
Ouais.
Mais effectivement, c'est aussi le but du poème et de la poésie, c'est de perdre les gens. C'est de les perdre. T'es à une époque où on t'explique tout. Là on est dans le paroxysme. Tout est expliqué et dit, etc. Mais le phénomène de perdre les gens. Mais pour revenir au sujet initial, puis après on va revenir à Bruxelles, je te promets. On ne se perd pas dans Genet comme ça. C'est plus balisé, Genet. Alors, tu peux y aller? Non?
Bon, alors ça dépend quelle période.
Ouais.
Non, Genet, c'est aussi. Non, je crois pas.
Non.
Je pense que balisé, pas du tout. Genet, en fait, c'est que des coups de corps par rapport à ces mecs. À ses amours,
oui.
Tu vois. Il y a des grands amours dans la vie de Genet.
Abdallah.
Oui, mais ça, c'est le dernier.
C'est le dernier.
Non, c'est l'avant-dernier, pardon. C'est l'avant-avant-dernier.
Oui, oui.
Après, il y a le coureur.
Il y a le coureur, oui.
Le coureur,
oui,
automobile. Et puis après, évidemment, il y a son grand amour avec lequel il va finir ses jours, quoi, pratiquement, au Maroc. Non, alors Abdallah et l'autre, attends, le funambule, comment c'est
Abdallah.
Non, c'est Abdallah et le dernier. Non,
le dernier, c'est le coureur automobile, c'est avant.
Oui, non, après le dernier, c'est.
Bref,
on n'en parle pas beaucoup. Mais en fait, il va aller le retrouver là-bas, il va mourir là-bas, il se faire enterrer au Maroc, d'ailleurs, chez son dernier amant, quoi, grand amant. Mais je trouve que c'est plus lié à ça. Il y a toujours une rupture, très bizarrement, chez Jean Genet, dans sa façon de s'intéresser à l'art, parce qu'il a quand même touché un peu tous les genres, hein, à savoir, et d'ailleurs, il y a un des genres qu'on n'a pas beaucoup creusé chez Genet, c'est-à-dire le théâtre, la littérature d'abord, le théâtre ensuite.
La critique d'art,
et il y a eu le cinéma. Oui. Il a essayé de faire des scénarios de cinéma beaucoup, qui ont été refusés, Jean Genet. Et à chaque fois, ça correspond à des périodes amoureuses, tu vois. Donc, quelque part, on ne peut pas du tout rapprocher avec Arthur Rimbaud, parce qu'Arthur Rimbaud, on ne lui reconnaît qu'une histoire d'amour. Enfin, deux, mais les autres, il n'en dit rien. Donc, on n'en connaît rien. Mais non, chez Jean Genet, c'est plus balisé, je trouve pas forcément, surtout que ça correspond toujours
à des ruptures, soit amoureuses, soit idéologiques, soit avec des gens avec qui il s'entend plus. Au théâtre, il pense que... il s'intéresse quand même, Jean Genet, 10 ans au théâtre, et tout à coup, il laisse tomber, comme Rimbaud, hein. Et il renie ses pièces, il fait chier tout le monde parce qu'il trouve par exemple que Les Paravents, qui est une pièce immontable, il y a tellement de personnages sur scène. Enfin, tu connais un peu l'histoire, il voulait mettre une centaine de personnes sur scène, c'est pas possible. Donc personne n'a pu s'y attaquer. Il refuse d'aller d'assister à la plupart des représentations théâtrales, etc. C'est pas si balisé que ça.
Jusqu'à la fin de ses jours, Genet va écrire, parce qu'on lui doit quand même un captif amoureux, quelques temps dans sa mort,
il peut pas vivre sans
en Palestine.
Écrire.
Tandis que l'autre...
Ah non, il peut pas vivre sans écrire.
Rimbaud, quand, je sais pas, cette histoire, tu la connais, il y a un voyageur, je sais plus qui est parti justement dans le golfe, dans la corne de l'Afrique, là, et il lui dit, vous savez, je crois qu'il doit lui dire que Verlaine a publié...
Oui, il n'en a rien à foutre, il dit
je m'en fous.
Complètement.
C'est pas mon problème.
Il écrit toujours. Alors ça, tu vois, c'est encore une idée fausse. Il écrit à la Société de Géographie.
Alors ça, il faut le dire. Ouais. Parce que ce qu'il écrit, c'est très bien.
Oui, bien sûr.
C'est très structuré.
Oui, oui, oui. Et on a les textes.
Oui, c'est très structuré.
C'est très bien écrit, surtout.
Bien, une syntaxe parfaite. Ah, oui, mais il travaille.
Ah, il travaille, bien sûr.
Il travaille. C'est un explorateur. Il fait le géographe.
Alors, le problème aussi en Afrique, enfin, c'est très bien qu'on parte dans tous les côtés, parce que finalement, un peu de tous les côtés. Mais en Afrique, oui, c'est un grand travailleur. Ouais. Mais il n'a pas de chance.
Il le dit en Afrique. Il dit, je veux passer mon baccalauréat. Envoie-moi des dictionnaires. Alors,
elle n'arrête pas de se dire de sa mère. Et elle passe son temps, elle, à aller à la poste, lui envoyer les colis, qu'il reçoit, il gueule parce qu'il les reçoit 3 mois après. Il engueule tout le temps sa mère. Hein. Il l'aime beaucoup, mais...
Oui, c'est le rapport. Hein. Là, le rapport avec sa mère, c'est pas si clair que ça. Hein.
C'est magnifique, le rapport. Mais je te rappelle que sa mère vient pas quand il est en train d'agoniser. Hein.
C'est sa sœur qui vient. C'est Isabelle. Ouais. C'est Isabelle.
Ouais. Donc, il y a un rapport un peu bizarre entre la mère.
Donc, après cet épisode pathétique des harengs,
oui,
ils vont se retrouver en Belgique.
Ouais.
À force errant, l'alcool y est pour beaucoup.
Ah bah alors là, ça s'arrange pas. Hein. Niveau alcoolique, ça s'arrange pas. Je crois que c'est même le... Et là, on assiste à des scènes que je trouve encore plus, tu disais tout à l'heure, dérisoires, je ne sais pas si on peut dire ça. Parce qu'en plus, il y a la pauvre Madame Verlaine qui est entre les deux, qui essaye de...
C'est encore pire, qui vient, elle vient les retrouver.
Ah oui, et puis elle vient même carrément avec la femme de Verlaine.
Voilà, donc il y a la mère,
il y a Mathilde. Et le petit, la petite même, je crois, non ?
Oui,
la
petite fille, il y a le gosse aussi.
Il y a le gosse, ouais. Donc voilà, tout ça se passe très très mal, et il y a d'un autre côté Mme Rimbaud qui essaye de dire à son grand couillon de fils quand il revient, parce qu'il revient de temps en temps, c'est pas loin Bruxelles, hein, il revient voir sa mère qui lui dit arrête tes... Enfin, il y a une interaction parce qu'évidemment Mme Verlaine écrit à Mme Rimbaud en disant faudrait calmer votre fils, quoi, en gros. Et là-dessus, la mère de... Alors on le sait par la réponse de la mère de Verlaine, mais donc il y a un échange aussi, un échange de courrier entre les deux mères. Bon, c'est assez marrant. Et du coup, Vitali Rimbaud fait un peu la morale à son fils. La mère de Paul Verlaine est plus... Comment dire ? Elle adore son fils chéri. Elle est plus tolérante quand même avec son petit Verlaine, qui a toujours raison, quoi, par rapport à Rimbaud. Mais je crois qu'elle aime bien Rimbaud aussi, quoi. Finalement, ça ne lui déplaît pas tant. Je ne sais pas si elle n'aimait pas Mathilde. Enfin, tout ça est très compliqué. Ça amène des imbroglios. C'est très drôle à suivre, d'ailleurs, parce que c'est carrément... On est encore là dans le feuilleton. Hein. D'ailleurs, c'était l'époque des feuilletons. Ça aurait pu faire le... S'ils avaient été un peu plus connus, si Rimbaud était plus connu, ça aurait fait, je suppose, le régal des journalistes à scandale aujourd'hui. Des réseaux sociaux. Et ouais, bon, ça se finit mal. Alors, cette histoire du pistolet, c'est...
Bon, alors, sans
c'est carrément lamentable, quoi. C'est un coup foireux.
On va être d'accord ensemble. Mais tu vois, dans ce que tu viens de dire, est-ce qu'il a participé ou pas à la Commune ? N'empêche, quand il a 17-18 ans, il est à Paris, l'inconscient collectif, la Commune est dedans.
Ah, mais complètement...
Il est pétri. Attends, le feuilleton, mais moi j'y ai pensé aussi, le feuilleton, c'est-à-dire ce rapport homme-femme, tout se déchire, homme-homme, etc., c'est dans l'inconscient collectif aussi.
Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Et tu sais, en fait, on lit beaucoup, à cette époque, on lit beaucoup, et les nouvelles, alors, ont du mal à arriver en province, surtout au moment de la Commune, mais il y a quand même des journaux qui arrivent à passer la censure, où on est au courant des choses. Et Rimbaud, quand il retourne là-bas, parce qu'il reste pas longtemps à Paris, il reste une... S'il était... Enfin, on sait même pas s'il est resté. Donc, tu vois, comme c'est difficile d'en parler, il s'avérerait... Enfin, t'as suivi dans mon bouquin. Alors, On a des traces de, qui ne sont pas très fiables, puisque c'est ses anciens, c'est Isambard en particulier, donc ses anciens potes de lycée ou professeurs, qui témoignent plus ou moins en disant « Oui, il serait parti à pied à Paris, il se fait même attaquer par un sanglier, tu sais, que je trouve absolument formidable. » Bon, est-ce que c'est Rimbaud qui racontait des histoires pour faire plaisir, les professeurs les ont repris, y compris son plus vieux pote, qu'il, enfin, avant qu'il quitte l'Europe, qui restera son seul ami, hein.
Ernest
Delahaye, bien sûr, oui. Delahaye. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Et le pauvre Delahaye, c'est dommage, parce qu'à la fin, quand on vient l'interviewer, quand enfin Rimbaud est célèbre, lui, évidemment, est un homme, il a grandi, c'est un homme et tout, et il essaye un petit peu de donner un portrait d'Arthur Rimbaud, mais qui est assez faussé.
Et on est quand même, on est quand même déjà parvenu en 1901.
Oui, on est en 1901.
On est déjà, mais je veux dire que, c'est, que on est vraiment là. Ouais. Parce que si tu regardes 1901, tu sais que le surréalisme apparaît avec Dada en 1920. Il y a 18 ans ou 19 ans qui séparent.
Oui, c'est pas beaucoup.
Beaucoup. C'est ça qui est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire.
Donc, c'est dérisoire, tout ça.
Alors, le coup de feu, c'est intéressant quand même, parce qu'il y a tout un cinéma, quand même. C'est presque du théâtre.
C'est du théâtre.
Toi qui adores le théâtre.
C'est du théâtre.
Donc, c'est je t'aime, je te tue. Et en fait, c'est qu'un ratage, quoi.
Bon, il le touche à la main.
Au poignet.
Donc, c'est pas
dramatique. Mais il y a une image formidable. Il se fait peindre son portrait, quand même. Enfin, c'est pas. Un ami,
qui c'est
Rimbaud, oui, il y a un portrait de Rimbaud qui est extraordinaire. On le voit au lit, où il est chouchouté par une dame très gentille, qui le récupère et qui le soigne. Et ça, c'est très touchant. Et donc, il y a un portrait très célèbre, où on le voit, le pauvre chéri, là, gros bandeau comme ça.
Il n'a pas loupé son pote non plus.
Non, il n'a pas loupé son pote non plus. Parce que l'autre, quand même, il a arrêté de 2 ans de tôle.
C'est clair. Pour ça, il a quand même 2 ans de cabane à Mons.
Mais tu sais que c'est ridicule, ce coup de feu qui part tout seul. Bon, d'ailleurs, tu as écrit un bouquin, Jeanne, avec un type formidable, et je l'ai retrouvé grâce
alors,
à...
Alors oui, Rivolvita.
Ouais.
Là, oui, c'est
j'ai
ça.
Retrouvé le sens du titre à cause de ça.
Il y a très peu de gens qui le savent.
Je t'ai bluffé.
Oui, c'est ça, on en reparlera en antenne. C'est-à-dire que ce méchant garçon...
On sait quand même ce qu'on dit très peu, c'est que Verlaine voulait se foutre une balle dans la... Enfin, il n'arrête pas de faire un chantage de suicide.
Le mot, tu l'as dit, c'est du chantage.
C'est du chantage.
On est dans une théâtre...
Et le coup part par hasard, en fin de compte. Complètement par hasard. Et en plus, d'une façon très... Très conne.
On est dans une théâtralité constante.
Ah ben, total.
Total.
Toi, t'aimes ça. C'est très surréaliste.
Bien sûr.
D'ailleurs, moi, ça fait penser à la canne d'Artaud et à tous ces gens-là, tu vois.
Ça n'empêche pas que ça tourne mal. Parce que l'autre, Verlaine, se tape 2 ans de prison à Mons.
Mais c'est dommage, en plus, encore qu'il se tape 2 ans de prison. C'est pas très grave, Jean Genet en a fait plus. Non, ça c'est pas très grave. Ce qui est très grave, c'est qu'il va se convertir à ce moment-là.
Voilà, parce que je voulais te dire, ça amène ça.
Et oui.
Et ce débauche. Attends, et oui. ce qui est très là. Bon, homosexuel, il bat sa mère, il bat son gosse, il bat sa femme, il bat tout le monde, et il picole comme un trou. Mais il devient catholique, ce con.
Oui. En prison.
Ouais.
Alors, est-ce la rédemption? Est-ce que finalement, c'était un très gentil garçon, Arthur Rimbaud, qui a voulu lui faire passer, tu sais, toute la fantasmagorie chrétienne, tu sais, qu'il faut beaucoup avoir péché pour arriver. Non, je rigole. Rimbaud, il s'en fout, il se casse. Une fois qu'il est guéri, bon, il dit, moi, j'en ai rien à foutre. En gros, c'est du genre, je m'en fous de ce sale con qui crève dans sa tôle, aucune compassion, je m'en fous. Voilà, il se barre. Il se barre. Là, déjà, il est parti, Rimbaud, c'est fini. De toute façon, il a tenté sa chance à Paris, il l'a raté, à cause de ses pitreries et de son caractère, on va dire, et de ses exigences. Hein, parce que quand même, Rimbaud, c'est quelqu'un qui court après la célébrité, quand il arrive à Paris. Faut pas croire que c'est... Il a énormément confiance en ce qu'il fait. Alors, t'as oublié de dire quelque chose, c'est que les premiers écrits de Rimbaud, ils sont adressés quand même à des personnages un peu louches. Alors, l'histoire de Victor Hugo, soi-disant, il a renvoyé un poème, bon, bref, ça. Mais tu sais qu'il a aussi écrit pour l'empereur, le fils de l'empereur, la naissance du fils de l'empereur.
Merci.
Bon, donc c'est quand même quelqu'un qui veut y arriver.
Mais tu sais que l'autre Hermont, donc on sait rien, qu'il était dans le deuxième arrondissement, qui n'était pas le deuxième arrondissement, qui a écrit, c'est magnifique, l'autre Hermont, je ne sais pas si ça,
c'est ah un, mais j'adore,
ça t'inspire. Mais cet anti-littéraire au possible, qu'est-ce qu'il fait? Il a écrit sa lettre à Victor Hugo.
Tous, et je crois qu'il est incontournable.
Ils ont tous. Mais ça a été. Mais tu sais, alors, petite parenthèse, je ne devrais pas le dire sur Radio Libertaire, mais je vais le dire quand même. Notre Léo Ferré, que nous avons entendu magnifique, c'est magnifique, là. Quand il a écrit ce recueil de poèmes, qui n'est pas un grand recueil de poèmes, Poète vos papiers, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé à Bachelard.
Oui,
ce comte Bachelard, j'adore Bachelard, entre guillemets, j'adore sa voix, il a envoyé une lettre, monsieur, là. Mais ce qui se passe, c'est que Bachelard, il recevait des tonnes de bouquins, et c'était des lettres, c'était toujours les mêmes propos, et Ferré tellement mégalo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reproduit la lettre de Bachelard, mais n'importe qui pouvait avoir les mêmes propos de Bachelard. Tu vois, quand on veut arriver, comment on parle,
on en a connu, qui voulait y arriver.
Moi, je te propose, parce que là, le temps tourne un petit peu et que Monique est impatiente d'envoyer un peu de bandoneon, d'argent vin. Et après, on va partir en Afrique.
Ah oui.
Il nous reste 20 minutes pour partir en Afrique.
C'est pas ma période préférée de Rimbaud.
Oui.
Mais il faut la défendre.
Il faut le voir. Il faut voir, parce que je trouve. Attends, deux secondes, là. Je trouve que la quatrième de couverture où tu essaies encore de l'excuser, tu dis qu'importe pour moi qu'Arthur Rimbaud ait fini par vendre des armes en Afrique, c'est pas le sujet. On en parle.
Allez, oui, on en parlera, mais c'est intéressant.
Monique Bandoneon. On va continuer un autre jour avec Rimbaud en Afrique, la voix de Patrick Schlüner. C'était très intéressant. On est bien au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, bien sûr. Et Yombi, comme un 800 pays, ni sponsor ni publicité. Alors, pour vos cartes de soutien, vous avez une seule adresse, Librairie Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Une autre librairie à fréquenter, ce sera vendredi à 19h, c'est la librairie EXC. C'est Passage Molière, c'est Métro Rambuteau, c'est à un souffle de Beaubourg. Et là, vous allez pouvoir rencontrer les membres éruptifs de la revue Toto. Vous aurez Mena Huerta, Abdoulkader Al-Janabi, Marc Aubert, Charlie Lousse, Denis Moscovici et moi-même. Donc, rendez-vous tous vendredi 19 à la librairie EXC, Passage Molière, c'est au Métro Rambuteau. Et voilà. À bientôt, en espérant vous y rencontrer.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc après la voix charmeuse de Monique, Nous sommes avec Nicolas Serge et notre invité Renaud Garcia. Je vais présenter un peu plus longuement et puis on lui passera la parole pour les deux heures qui viennent. Avant, j'avais quand même une information à donner, sachant qu'il y aura sans doute un peu plus de détails dans la semaine. Je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent la librairie du Monde Libertaire, Publico. Voilà, à 55 rue Malo, à côté de la République, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, et bon, qui a déjà été victime d'une agression il n'y a pas si longtemps que ça, 2-3 ans, un copain qui s'est fait agresser directement, ça a été renouvelé. Alors on ne sait pas du tout si c'est exactement la même source, je pense qu'il y aura des informations pour essayer. En tout cas, vendredi vers 18h, si je me souviens bien, il y avait environ 6 compagnes et compagnons qui étaient... Et donc, quelqu'un est passé à balancer une fumigène, et puis est parti avec son vélo, voilà. Donc, tout ça est dans un contexte extrêmement désagréable. Je sais qu'il y a notamment eu des agressions dans des locaux de la libre-pensée il n'y a pas très longtemps, enfin, etc. Bon, je ne détaille pas là-dessus, c'est important, mais en tout cas, je pense qu'il y aura un communiqué avec plus de précision. Voilà, donc, ceci étant dit, je vais vous lire, comme d'habitude, la présentation de l'émission qui sera sur le site... vous faites Trou Noir Radio Libertaire, donc voilà, et l'émission sera à partir de ce soir, enfin ou de demain, sur ce site. Bien. Moins que jamais, l'école n'est le lieu de l'émancipation individuelle. On y apprend le rendement, l'adaptabilité, la mise sous pression, au lieu de tête bien faite, la taylorisation des neurones. Cette phrase figure donc dans un livre qui s'appelle « Déconstruction de l'école, journal d'un enseignant français 2021-2022 ». Voilà, aux éditions La Lenteur. Et donc, c'est l'ouvrage Renaud Garcia donc, qui est avec nous. Nos auditeurs qui connaissent l'émission depuis longtemps savent qu'on l'a déjà invité pour d'autres livres et puis d'autres occasions. Et qui est venu de Marseille, voilà. Et qui repart d'ailleurs après l'émission. Donc, qui est professeur de philosophie par vocation, je mets par vocation entre guillemets, parce que c'est ce qu'il dit dans le livre. Il constate l'obsolescence programmée d'un métier qui repose à l'origine, pourtant, sur la relation vivante avec les jeunes. L'accélération s'en fait particulièrement sentir dans la période récente, facilitée par la gestion étatique de la Covid et par la religion du numérique. Ceux qui résistent sont des perturbateurs, pour l'administration comme pour la majorité des élèves et de leurs parents. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation pendant 5 ans, a été un officier zélé de la technocratie en marche. Là aussi, j'ai mis des guillemets, puisque je crois que c'est dans le film ou dans une interview. Enfin, en tout cas, c'est Renaud qui a dit ça. Pour le bac, l'importance d'options de spécialité dont les résultats sont connus en mars. Enfin, on verra qu'avec la Covid, bon, ça a pu évoluer, mais